Rencontre spirituelle aujourd'hui, une émission spéciale, comment trouver le bonheur, mais comment trouver le bonheur simplement en se posant des questions à nous-mêmes, sans insister sur la révélation que Jésus nous a faite. Comment trouver le bonheur simplement comme nous avons fait au cours d'une ou deux autres émissions, en se servant de notre raison, de ce que Dieu nous a donné comme moyen pour réfléchir là-dessus. D'ailleurs, c'est la bienheureuse Élisabeth de la Trinité, cette jeune carmélite qui jouait fort bien du piano à Dijon, en France, et qui disait que la nature me semble pleine de Dieu, tout me parle de lui. C'est la raison, simplement la constatation nous permet de découvrir Dieu. Elle n'est pas la première à le dire, des millions de gens ont dit la même chose. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous ai déjà dit que Dieu nous a créés, c'est une évidence. Nous n'aurions pas tout ce que nous avons dans notre corps. Ça peut pas se faire comme ça. La matière n'engendre pas des cerveaux, des yeux, comme ça par elle-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Moi, il me semble, c'est évident pour la plupart des gens, et ceux qui ne l'acceptent pas, je ne sais pas comment ils font. Mais on peut se poser la question, Dieu nous a créés, d'accord, mais qui sommes-nous et de quoi est faite notre nature, notre nature? Je crois qu'on pourrait examiner ça, et ça va nous aider à parler avec les jeunes qui ne croient pas, ou avec des frères ou des sœurs qui ne croient pas. Je parle pas de frères en communauté, là. Nos frères de sang, les membres de notre famille, nos voisins, afin de parler calmement. Faut pas discuter de façon violente. Alors, ce que nous devons examiner de plus près, c'est bien ça. Qui sommes-nous? De quoi est faite notre nature? Car, si nous voulons vraiment orienter notre vie, de toute façon, il nous faut rechercher les principes, les principales forces, qui se trouvent en nous. Puis il faut leur donner un but bien clair, bien précis, sans ça on ne sait pas où on s'en va, pourquoi vivre. Il faut essayer de l'apprendre comme ça. Il faut établir une espèce de schéma ou une carte, si vous voulez, pour voir, un peu comme dans les océans, les courants qui nous emportent. Vous savez qu'il y a des courants dans les océans qui emportent les courants d'eau chaude vers le nord, heureusement. Nous avons des courants en nous, au fond de nous-mêmes, comme dans un océan, qui nous emportent chaque jour de tous côtés. Il faut expliquer ça, les tourbillons qui nous habitent. Nous sommes pris nous-mêmes, d'ailleurs, dans des tourbillons, souvent. Il faut repérer aussi tous ces engorgements, où notre activité s'affole trop souvent. Nous sommes pris dans des tas de dilemmes, car c'est la grande misère de l'homme, et de la femme, d'ailleurs, de pressentir la richesse de son être. Et de ne pas pouvoir se rendre entièrement maître de ses puissances. De ses puissances d'action, nous avons des puissances d'action, mais nous n'en sommes pas maîtres. Un livre que nous lisions quand nous étions jeunes, moi je suis un vieillard, un jeune vieillard, d'accord, mais un vieillard de 71 ans, on lisait ça, le Père Charles, c'est un très beau livre, Prière de toutes les heures. Il disait, en parlant de lui-même, et de chaque homme, chaque femme pourrait le dire d'elle-même. Je m'appelle Légion, parce que je ne suis pas seul. Tu sais, on dit toujours, je ne sais pas combien de personnalités en moi, au fond. Je voudrais faire ci, je fais cela à la place, je me promets ceci le jour de l'an, je n'en ai rien fait quand j'arrive au 31 décembre. Toutes sortes de choses m'ont entraîné. Alors, je m'appelle Légion, ou si vous voulez, je m'appelle contingent, armé, parce que je ne suis pas seul. Je ne suis pas Je n'ai pas fait l'unité, quoi. Je suis plusieurs. Je suis une multitude confuse et remuante. Une étrange anarchie de tendances contradictoires. Je suis une cohue insensée de personnages qui se bousculent et se supplantent et qui tous prétendent s'emparer de moi. Il faut avouer, en effet, vous l'avouerez, qu'après des siècles de recherche, nous restons pour nous-mêmes des mystères. Non seulement nous n'avons pas, on peut dire, l'entière maîtrise de ce qui nous habite, des virtualités multiples de notre nature, mais nous ne les connaissons à peine, À peine. Si des médecins comme Alexis Carrel, je vous ai fait une émission sur Alexis Carrel, cet médecin admirable, si des médecins comme lui se sont découragés devant l'énigme de la vie physique, si ces médecins doivent constater leur ignorance en parlant de l'homme cet inconnu, vous vous souvenez ce livre de lui, que dire des psychologues et des philosophes qui scrutent le domaine absolument prodigieux où se démène notre esprit? Tâchons cependant de préciser notre bien mystérieuse nature. Bien, bien mystérieuse nature. Ce qui importe avant tout, c'est de remarquer, et de bien remarquer, que nous sommes, au fond, essentiellement des êtres composés de chair et d'esprit. D'abord, c'est la résultante d'un corps et d'une âme. Que nous ayons un corps, c'est l'évidence même. Que nous ayons une âme, un peu de réflexion suffit, il me semble, je vous en ai déjà parlé, pour nous en convaincre. Nous sommes, c'est évident, bien limités dans le temps, hein? Nous sommes des citoyens de cette fin du XXe siècle. Nous ne sommes pas au XVe siècle. Nous sommes dans l'espace et notre place sur la planète est mesurée par les quelques décimètres ou décimètres cubes de notre corps que notre corps occupe au Québec, ici, là, dans la région de Montréal. Et cependant, nous avons un pouvoir prodigieux de nous évader de notre petite prison, qui est notre corps, puis on peut forcer les barrières du temps et nous parvenons à fuir au loin, à scruter les siècles et l'espace, sans que notre corps arrête notre élan, sans que notre corps nous suive. C'est ce que nous faisons, pour ainsi dire, chaque jour à rencontre spirituelle en parlant des saints, et nous voyageons à travers les siècles. Hier, c'était Saint-Hildegarde de Bingen, alors nous étions au 12e siècle. En Allemagne, on voyageait. C'est formidable avec notre esprit, notre âme. Ce pouvoir d'évasion qui contredit si étrangement les petites possibilités de notre corps, nous devons l'attribuer, c'est évident, à un autre élément de notre être que nous appelons l'âme, c'est l'âme. Par ailleurs, un besoin d'infini nous tourmente, qui est inconciliable, lui aussi, avec la limitation qui enchaîne notre vie à un endroit, ici dans la région de Montréal, et à une époque déterminée, cette fin du XXe siècle. L'ailleurs nous attire, hein? On aime ça voyager, même en esprit, tout simplement. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que les gens passent leur temps devant leur télévision, ils voyagent. Rien de matériel ne nous satisfait complètement. Ce que nous cherchions à posséder, une fois obtenu, ça ne nous rassasie pas, et nous cherchons plus loin et plus haut que ce qui est offert par le monde matériel. À quoi sert un beau Bordua, un beau Riopel, si c'est pas aller vendre à un bon moment donné, quand ça a bien augmenté, pour donner à toutes sortes d'œuvres et pour donner aux pauvres? Plus pour ça. Autrement, on s'attache et ça ne vaut pas la peine. Un animal qui est rassasié est satisfait, mais nous, non. On a beau être rassasié de quelque chose, on n'est jamais rassasié. Le lion, lui, déchire sa proie, puis il dort. On voit ça à la télévision. Mais l'homme, lui, il veille tout le temps. Et même, souvent, l'insomnie s'empare de nous, hein, puis on veille, on pense à autre chose. Et de nouveau, cela ne s'explique pas par autre chose que par la présence en nous d'un élément qui est non matériel, qui cherche un bien non matériel, et ça c'est l'âme, l'âme, l'âme qui aspire à toujours plus. Alors c'est clair, me semble, ce qui constitue l'originalité de notre être humain, ce qui lui donne, entre tous les êtres créés, là, un caractère absolument unique, c'est qu'il est composé de deux éléments apparemment contradictoires. Nous ne sommes ni ange ni bête, ni animal, ni raison. Nous sommes des animaux raisonnables. Nous pouvons nous définir indifféremment une chair animée ou une âme incarnée. En nous, ces deux éléments ne sont pas statiques, immobiles. Le corps agit, l'âme agit, chacun se développe selon ses tendances propres. Et l'un nous incruste dans le monde matériel, puis l'autre nous emporte dans des sphères plus hautes, des mondes autres qui sont réels ou imaginaires. On devine déjà les problèmes, les tiraillements et les conflits. Qu'une telle situation, à la limite de deux mondes, doit entraîner. Alors comment trouver le bonheur? C'est Maurice Zundel qui disait « Tous les problèmes humains ont leur origine en l'alliance mystérieuse de la chair et de l'esprit. Celui-ci trop vaste et celle-là trop étroite. La vie commune qui les joint réclame son accord. » Alors le problème pour trouver le bonheur se complique du fait que nous avons tout à recevoir, car il nous faut partir d'un fait qui est très humiliant pour nous, un homme né par lui-même qu'un pauvre mendiant. Le plus pauvre d'ailleurs parmi tous les êtres créés, car livré à ses propres moyens, un être humain ne possède pour ainsi dire rien. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder un nouveau-né. Regardez, avez-vous déjà vu quelqu'un de plus pauvre qu'un nouveau-né? Il n'y a pas d'instruments de travail, au fond. Ses sens, son intelligence, sa volonté sont à peine ébauchés. Tandis qu'un papillon qui sort de sa chrysalide, ou bien un petit poussin qui brise sa coquille, eux, ils sont autrement adaptés à la vie, hein. Mais l'homme ne sortira de sa misère qu'en mendiant autour de lui sa subsistance. Il crie. Il veut avoir de la nourriture. Et dans, il peut pas aller la chercher lui-même. Dans les deux mondes qu'il habite simultanément, il cherche sa subsistance. Deux mondes qui sont enracinés au sol, et puis là, il s'élève dans les airs et reçoit. Nous sommes, en somme, comme des arbres enracinés au sol. On s'élève dans les airs, puis on reçoit tout de la terre et des cieux, et nous vivons donc d'emprunt, dès les premiers moments de notre existence. Et voilà ce qui complique toute notre vie. Nous empruntons, et qu'est-ce que cela va nous enchaîner, hein? Ça va nous enchaîner à des créanciers, peut-être. On va voir les choses de plus près. Tout d'abord, nous empruntons dans le monde matériel. Le monde matériel procure au corps la nourriture, les vêtements, l'habitation, etc., tout le confort, mais on le devine aussitôt, si l'homme n'y prend pas garde, il court le risque, par ses emprunts, là, de resserrer les liens qui le retiennent à la terre. Il y a des gens qui empruntent à la terre, à la terre, à la terre, sont cloués à la terre. Un homme comme ça peut perdre sa supériorité sur les choses inanimées. Il leur sacrifie son corps, sa pensée, son âme même, on dirait qu'il n'en a plus. En tout cas, il sacrifie même sa liberté d'action. Et de fait, nous sommes enchaînés par des riens, puis des riens nous rendent malheureux. Hein? C'est la constatation journalière. On voit ça des gens qui sont tellement pris par les petites choses quotidiennes, concrètes, ils sont malheureux. Et nous sommes exaspérés quand le métro est en panne, mettons. Pour ceux qui fument, quand le tabac vient manquer, ou bien ils vont au restaurant, puis la nourriture est pas tout à fait comme ils le voudraient. Ou bien, ils veulent écrire quelque chose, bon, puis il n'y a plus d'encre dans le stylo, puis là, ils sont enragés. Ou bien, quand un voisin écoute sa télé à tue-tête, là, il perdent patience, c'est quelque chose de terrible. À ce point de vue, le progrès matériel n'est pas toujours un progrès réel. Il entraîne trop souvent, je dirais, une espèce de diminution sensible de nos moyens d'action. Le progrès matériel nous enchaîne. Il affaiblit l'acuité des sens. On se demande des fois si les disques ont développé davantage le vrai goût, le sens musical des hommes. Mais je crois que oui. C'est une des rares exceptions. Mais ça dispense peut-être trop de gens d'apprendre l'art de jouer d'un instrument, parce qu'il y en a beaucoup moins qui jouent d'un instrument aujourd'hui, du moins du piano, du violon et des instruments que l'on classe comme étant plus sérieux. Et le progrès matériel amollit les caractères. Hein? Imaginez un adolescent dans un fauteuil, là, avec des vêtements bracadabrants, puis une cigarette au bec, mâche la gomme. C'est pas drôle. Le progrès engourdit la mémoire aussi. Ça endort l'esprit. Car on dirait que les autres réfléchissent pour nous. Le progrès, certains progrès, ramollit la volonté. Mais d'autres progrès, heureusement. Et nous avons besoin du monde matériel pour notre corps, mais nous le sentons bien. Il faut modérer. Sans ça, nous allons nous dissoudre dans la matière. Il faut donc quand même avouer que le monde matériel est nécessaire. Le monde matériel peut quand même nourrir l'esprit. Et comment ça? C'est que notre intelligence ne s'éveille et ne se met à raisonner qu'à la condition de recevoir d'abord, par l'intermédiaire des sens, la vision du monde. Et c'est là que les sens, dans le monde matériel, peuvent introduire dans l'âme des aspirations à la grandeur et à la beauté. Je vous disais que nous dépendons de nos sens, c'est évident, hein, de notre vue, de notre ouïe, de nos oreilles, de notre toucher, de la parole, etc. On dépend des sens pour saisir le monde sensible autour de nous. Mais notre intelligence, elle, heureusement, elle peut dépasser ce monde, elle peut conclure, comme nous l'avons fait il y a deux semaines, à l'existence d'un être suprême, dont tout dépend. Et l'homme peut entrer en contact avec lui par la pensée, puis par la prière, comme les hommes l'ont toujours fait depuis toujours. Les hommes les plus anciens, on le sait, enterraient leurs morts. Et ils croyaient probablement que c'était la lune ou le soleil qui était Dieu, mais peu importe, ils y croyaient. Il cherchait. L'homme peut aspirer, même par toutes les fibres de son être, à ce que cet être suprême lui révèle clairement le but de la vie. Hein? Je pense à des gens qui ont crié vers Dieu d'une façon fantastique en disant « Mon Dieu, si tu existes, parle-moi !» Et ils ont senti au fond d'eux des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Pour la conduite de leur vie, pour trouver le bonheur. Et Dieu se communique davantage à ceux qui le prient. Y pensons-nous assez? Est-ce qu'on le dit assez à nos enfants? Bon, je répète. La connaissance que l'homme se fait de Dieu est nécessairement entachée de matériel. Car ce n'est pas l'esprit qui pense, c'est l'homme composé de matière et d'esprit. C'est bien mélangé. Et notre esprit est tellement dépendant de la matière, très dépendant, que toute son activité, même en dehors du monde purement matériel, porte la marque de cette dépendance de la matière, comme notre esprit est attaché à la matière. C'est ce qui explique la tournure qu'on a quand on pense à Dieu. Hein, on le voit au besoin qu'une grande barbe, c'est ridicule. Et malgré ce que l'esprit réclame, nous faisons de Dieu un vieux bonhomme, avec un visage humain, avec des mains qui façonnent le monde. Hein? Il y a des dessins là-dessus. Il serait bon et juste, comme le serait le meilleur des hommes, on s'imagine, on lui donne des qualités que nous souhaiterions qu'il ait. Et puis, il y aurait une mémoire, des désirs, des regrets. On lui donne toutes sortes de choses. On parle même de lui dans les réunions des AA comme le gars en haut, ou le gars d'en haut. J'ai déjà entendu ceci souvent, le gars d'en haut. C'est pénible. C'est pénible, mais je ne les blâme pas. C'est un début de foi. Il faut plutôt tendre la main et aider ces gens qui parlent comme ça, alors que Dieu nous habite. Ce sont des fictions, évidemment. On a peine à se débarrasser de ces fictions-là, de ces idées-là, mais il n'y a pas de connaissance angélique pour l'homme. L'homme n'a pas une connaissance angélique. Mais il n'y a pas une connaissance animale non plus, une connaissance humaine. C'est-à-dire qu'elle est faite de spirituel puis de sensible. Nous sommes des créatures bien complexes. J'ai insisté sur le contraste entre le corps et l'âme. En réalité, il y a une espèce d'unité dans le composé humain, mais disons qu'il m'a paru utile d'insister ici sur sa complexité à cause des développements qui suivent. Donc, nous sommes des créatures complexes, composées de matière et d'esprit, et qui doivent construire leur personnalité en empruntant à deux mondes différents, parce qu'on emprunte des matériaux, disons, pour construire notre personnalité. Et toutes les portes sont ouvertes, hein. Les sens sont ouverts du côté du monde matériel, c'est évident. Puis notre esprit, ben, est du côté spirituel, oui. Alors à nous de les ouvrir de façon, je dirais, intelligente. De choisir les matériaux, puis de les prendre, puis de les agencer. C'est comme ça que petit à petit va se construire notre personnalité. Que Dieu nous demande de, justement, de construire. Est-ce qu'on va construire une cathédrale ou bien une cabane. C'est là le mystère de chacune de nos vies. Du fait que notre nature est composée de matière et d'esprit, d'un corps et d'une âme, nous allons pouvoir en déduire que l'homme est, par nature, soumis à l'ignorance, à la souffrance, à la mort, et à la concupiscence, la maudite concupiscence. Ce sont là des particularités tellement inhérentes à notre être, ça fait tellement partie de notre être que Dieu ne saurait créer autrement ce que nous sommes, ce composé humain. C'est sûr que Dieu pourrait, moyennant une intervention spéciale, supprimer ces défauts-là que nous avons. Mais cette intervention, il faudrait qu'elle se justifie au nom d'autre chose qu'au nom de notre nature. Et c'est là tout le problème de notre pauvre nature humaine. Pensons-y. Tout d'abord, nous naissons nécessairement dans l'ignorance des choses, même les plus élémentaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, garder un bébé naissant. Nous avons vu en effet que l'intelligence humaine prend son point de départ dans les connaissances sensibles. Or, celles-ci ne sont pas innées, elles s'acquièrent par l'expérience. C'est pour ça qu'une mère est très précieuse auprès de ses enfants, et un père aussi. Et le point de départ de toute connaissance humaine est donc une ignorance. Ce n'est que par une marche lente, puis un effort progressif, que nos sens d'abord, puis notre esprit ensuite, s'éveillent, s'adaptent et se meublent. Et nous sommes donc ignorants par nature. C'est là que je me rends compte de tout ce que je dois à ma mère, à mon père et au professeur que j'ai eu quand j'étais enfant, pour que l'homme puisse avoir des idées toutes faites. Pour que l'homme puisse avoir donc des idées toutes faites dans le bon sens, sans avoir à recourir à l'activité de ses sens, sans faire d'emprunt au monde intérieur, bien, il faudrait que Dieu intervienne spécialement, puis les fasse naître directement dans l'esprit de l'homme. Ça arrive, mais c'est très rare. Une telle intervention, qui est en contradiction avec les lois naturelles de notre être, devrait se justifier. Puis il y a plus. L'homme est, et la femme aussi naturellement, soumis à la souffrance. Et c'est là une conséquence inéluctable du fait que nous sommes en partie matière. Mieux vaut s'y faire. Puis mieux vaut cesser de se plaindre. C'est inéluctable. Nous sommes faits de matière et nous souffrons. Remarquons d'abord que dans un certain sens, tout être créé souffre. Dès lors, tout être créé est nécessairement limité dans sa nature et dans son action. C'est surtout ça la grande souffrance. Et l'on peut dire que cette limitation engendre un manque de quelque chose, donc une souffrance au sens large. C'est la souffrance intérieure, qui ne vient pas de la matière nécessairement, mais elle est due en partie à la matière. Mais l'homme, comme tous les êtres qui sont engagés dans le monde matériel, souffre autrement encore. Pourquoi? Du fait qu'il doit occuper un espace déterminé, dans un monde à trois dimensions, au milieu d'autres êtres, qui ont les mêmes exigences que lui. Et c'est Jean-Paul Sartre qui disait « L'enfer, c'est les autres », et puis parlez-en à des membres dans des communautés. Ça n'est pas facile, la vie en commun. Saint-Thérèse, l'enfant Jésus en a déjà parlé. Et dès lors, si un corps matériel le déloge de l'endroit qu'il occupe, l'homme devra à tout prix trouver rapidement une autre place où se loger, sinon il va s'en suivre nécessairement des contacts désagréables. C'est ce qui arrive. C'est normal. Alors étant matériel, nous devons donc nous résoudre à vivre au milieu d'autres êtres matériels, à subir leur présence, leurs contacts, leurs actions, leurs exigences, et dès lors à souffrir. Nous sommes tous en communauté, finalement. Et de nouveau, il faudrait une intervention spéciale de Dieu en dehors des lois de la nature pour que l'homme soit mis à l'abri de l'action des autres êtres matériels. C'est impossible. Même pour les ermites. Puis, il y a la mort. Elle aussi, elle est naturelle à l'homme. C'est la séparation des deux principes constructifs de notre nature, le corps et l'âme. Le corps se désagrège, Il devient matière inorganique, il devient poussière quand il est mort. La mort est inéluctable pour un être qui est formé de cette façon-là. C'est inévitable. C'est comme ça. Nous n'y pouvons rien. Nous n'y pouvons rien, mais nous y pouvons tout. Vous verrez tout à l'heure. C'est dans l'espérance. C'est dans la certitude qu'il n'y a pas que cette vie. Il n'y a pas que ce corps. Il y a aussi un corps qui peut ressusciter. C'est aujourd'hui l'anniversaire, le deuxième anniversaire du décès de quelqu'un qui m'a beaucoup touché. C'est le chanoine Henri Caffarel. Le père Caffarel est mort à 93 ans, il y a 2 ans. Pas grand monde en a parlé, pourtant c'était un des hommes les plus remarquables de notre Église, un des prêtres les plus profonds. Il nous enseignait le bonheur. Oui, moi il me l'a profondément enseigné, le bonheur. Je vous ai dit que l'homme est soumis à des tendances de toutes sortes, qui semblent contradictoires. L'âme a ses exigences, puis le corps aussi. Alors, quelle est la partie de notre être qui va se soumettre à l'autre? Dans quelle région va s'opérer cette synthèse, cette unité, qui va permettre à l'homme, à notre être, de trouver le bonheur? L'unité ne peut évidemment s'établir que dans la région de l'âme. L'homme, en effet, ne rêve que de bonheur absolu, de vrai absolu, de beau absolu. Or, c'est l'âme qui introduit dans la vie humaine cette capacité, cette soif d'infini. C'est elle seule qui pourra trouver en plénitude, dans son domaine propre, ce que l'homme cherche, elle seule, l'âme. Mais voici que l'être sensible lui prend peur devant les aspirations et les exigences de l'âme, c'est normal. L'être sensible craint de perdre ses droits, les sens. Aussi, l'être sensible s'efforce d'amener l'âme à réaliser l'unité du composé dans le monde matériel. Alors l'âme réagit si elle est saine, mais elle court le risque d'outrepasser ses droits et ce tiraillement qui s'introduit dès lors dans notre être, entre le corps et l'âme, c'est ce qu'on nomme la concupiscence. C'est aussi naturel à l'homme que l'ignorance et que la souffrance. Il y a une concupiscence du corps, mais il y a une concupiscence de l'âme, vous expliquerez. Nous sommes bien mal pris. Comme la mort, mais la concupiscence n'est donc pas la conséquence d'une faute ou d'un échec dans la création. Elle est tout simplement la résultante normale du composé humain. Dieu nous a créés ainsi. C'est la réaction toute naturelle d'un élément sur l'autre. Le corps qui veut dominer l'âme, l'âme qui veut dominer le corps d'une façon démesurée. Bien que finalement, dans les plans de Dieu, ces deux éléments soient faits pour s'épanouir. Voyez, chez les saints, ils s'épanouissent, ça s'harmonie. Ça constitue la personnalité humaine. J'ai même rencontré un athée, que j'avais beaucoup aimé, et qui avait cette harmonie. Dans son athéisme, ça existe. Un homme profondément intelligent. Je m'explique que, d'abord, la concupiscence, la chair, disons. Dans le conflit, le corps attire l'âme, il la séduit, puis il l'ensorcelle, puis il l'émue. Il lui promet de satisfaire des aspirations légitimes. Il convainc l'âme, le corps, qu'elle peut trouver immédiatement dans le monde matériel, à portée de la main, tout ce qu'elle cherche. C'est un malin, le corps, notre corps. Il est gourmand, il est sexuel, il veut voir des choses qu'il ne devrait pas voir, etc. Il va entendre des choses qu'il ne devrait pas entendre. Des médisances. Les gens lisent tellement les petits journaux. Et l'âme, bien souvent, se laisse entraîner. Jusqu'au jour où, prenant conscience qu'elle s'est trompée, ben là, elle se ressaisit. Et s'il n'est pas trop tard, elle oblige le corps, là, à se subordonner à elle. C'est quand on fait une bonne retraite, ou si on est simplement sur le plan humain, on réfléchit, on s'assoit, puis on se dit, ça n'a plus de sens, là. Puis, l'âme va obliger le corps à la suivre, dans son ascension vers des biens supérieurs et plus stables. Et c'est alors que le corps sera heureux. Il y a une forme de bonheur à savoir rester dans sa chambre, à lire, à prier, à entendre de la musique, à être avec sa femme et ses enfants, à jouir de la vie telle qu'elle est, toute simple, avec un ami, une amie, une promenade, promener son chien, des choses très simples sur le plan humain. Et ce manège qu'exerce l'âme, c'est celui qui se passe, par exemple, chez le gourmand. Il est alléché par une table bien garnie. Il croit assouvir non seulement sa faim, mais tous ses désirs en mangeant plus que de raison. Puis l'âme cède alors, puis elle se repent bientôt. Et c'est le remords. Cela n'empêchera pas le gourmand de recommencer la même comédie quand l'occasion va se présenter. Il sera malade, puis il sera trop gras, ce corps. Et ce manège, c'est celui dont est victime le sensuel, le voluptueux, qui croit trouver son bonheur dans l'assouvissement immodéré, puis absolument intempestif, d'instincts que Dieu a mis dans nos corps et qui sont bons, hein. L'instinct sexuel, c'est bon dans le sens du mariage, de l'expression d'un amour total, et au besoin pour mettre des enfants au monde, des êtres éternels. Il enchaîne son âme, donc, le corps, à sa chair. Et cet homme-là va se débrouiller, plus ou moins, jusqu'au jour où l'âme s'aperçoit que les promesses du vice sont fallacieuses et que le fruit, de belle apparence, est amer. Que jamais le corps ne donnera la satisfaction que l'homme cherche. C'est le vide, là. C'est aussi très souvent, évidemment, de nos jours, de plus en plus, les maladies de toutes sortes, mais ça dure depuis longtemps, et la syphilis et tout ça, et même le sida de nos jours. Sans compter les enfants non désirés, les avortements qui s'ensuivent si facilement, on ne se rend même pas compte de ce qu'on fait et on tue les enfants. C'est lui qui fait de l'argent, une nécessité vitale, qui concentre sur l'argent ses pensées, ses désirs, toute son activité, est au même point. Il croit combler sa capacité d'infini avec des choses sensibles, alors il travaille jusqu'à 11 heures le soir pour faire plus de millions. Et dans le sens chrétien de l'homme, vous connaissez ce livre, Le sens chrétien de l'homme, de Jean Mouroux, on lisait ça autrefois. C'est encore un très bon livre aujourd'hui. Il écrit, si l'on veut enfermer un désir infini dans des biens finis, si l'on aime une chose ou un visage comme s'il pouvait nous donner Dieu, la pauvre richesse qu'on a choisie finit par craquer sous nos yeux et ne laisse qu'un peu de poussière entre nos mains. Et c'est le drame de toute une jeunesse privée du sens de Dieu aujourd'hui. C'est le drame de toute une humanité qui cherche n'importe où. C'est le drame de tant de gens. C'est notre propre drame dans des parties de nos vies, car l'homme n'est fait pour trouver son bonheur en Dieu. Et ça prend du temps souvent pour vraiment le comprendre. Et ces désappointements à l'homme, ces dégoûts, lui montrent qu'il fait fausse route en cherchant à établir sa réussite dans le domaine matériel. L'homme est alors victime d'un mirage. Il cherche un oasis qui existe, mais qui n'est pas là, où il voit des reflets passagers. Il ne voit que des illusions mensongères finalement, et l'homme cherche souvent le ciel dans les égouts. C'est Pascal, Blaise Pascal, qui disait « L'homme est visiblement fait pour penser. C'est toute sa dignité et tout son mérite. Tout son devoir est de penser comme il faut. Cependant, à quoi pense-t-on dans le monde ?» À se divertir, à devenir riche, à acquérir de la réputation, à se faire roi, à se faire vedette, si vous voulez, sans penser à ce que c'est que d'être roi et d'être homme. Pensons cependant qu'il y a à côté de la concupiscence de la chair qui consiste à sacrifier les exigences de l'âme au profit du corps, il y a une concupiscence de l'âme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Cette concupiscence de l'âme vit sans tenir compte des droits légitimes du corps. Il sacrifie son compagnon de route, le corps, pour mieux s'évader. Et si l'âme s'obstine dans ses vues étroites, là, on voit ça chez les gens qui sont contentieux, qui sont tendus, qui se croient spirituels en étant destructeurs de leur corps. Mais s'en suivra une espèce de tiraillement, un grand tiraillement, hein, au moins violent, c'est sûr, que celui qui accompagne les extravagances du corps, mais aussi réel et peut-être plus profond, malheureusement, hein. Les maladies spirituelles, c'est terrible. Il va s'en suivre un déséquilibre à cause des exigences de mesurer de l'âme. On voit ça même chez des athées ou des agnostiques qui ne pensent qu'à étudier, qu'à lire, et qu'à apprendre, qui dévorent des bibliothèques entières et qui sont malades à 35-40 ans. Alors comment trouver l'équilibre, le bonheur, hein, pour que la subordination soit parfaite entre le corps et l'âme? Il faudrait une intervention spéciale de Dieu, peut-être une intervention qui ne peut se justifier qu'en vertu d'une mission supérieure dont l'homme serait investi, qu'il aurait à remplir. Une mission supérieure? Oui, oui. Nous, hommes et femmes, nous sommes appelés et nous devons remplir notre mission pour trouver l'équilibre et le bonheur. À son moment résumé, l'homme à l'état naturel, c'est un composé de matière et d'esprit qui est soumis à l'ignorance, à la souffrance, à la mort. Nous sommes tiraillés en divers sens, en diverses directions, par des tendances qui sont foncièrement bonnes de l'âme et du corps, mais qui doivent s'harmoniser entre elles. Il faut faire l'harmonie, l'unité. La tâche que Dieu confie à l'homme, ça consiste en partie, je vous l'ai déjà dit, à ordonner puis à épanouir ces tendances-là, puis à devenir une personne et non seulement une espèce d'anarchie d'appétit. Il faut achever progressivement soi-même l'œuvre du Créateur, sans sacrifier l'esprit au corps, ni le corps à l'esprit. On arrive donc à devoir admettre que Dieu, en créant le monde, et tout particulièrement l'homme et la femme, a voulu délibérément réaliser une œuvre inachevée, mais il a dû donner à toute chose non seulement une tendance vers l'achèvement, un désir de progrès, d'épanouissement, mais aussi de donner des lois, selon lesquelles elles s'achèveront dans l'harmonie de l'ensemble. Quelles sont ces lois? Bon, ces lois ne sont pas imposées à l'être de l'extérieur, de façon plus ou moins arbitraire. Elles sont l'expression même de la nature de notre être humain, de tout notre être. C'est étrange quand on pense aux découvertes de la science par rapport à ça. L'intelligence humaine, vous vous souvenez, cherche à découvrir ses lois. Je vous en ai déjà parlé, à les cataloguer, à les grouper. On voit ça, hein, les lois de la chimie, les lois de la physique, les lois de la géologie. Puis l'intelligence veut les unifier à l'aide d'hypothèses. Puis là, elle veut chercher à vérifier dans des laboratoires la valeur de tout ça ainsi, en s'appuyant tantôt sur des découvertes, puis tantôt sur des suppositions, des présomptions. Elle s'avance lentement dans le champ immensément vaste et enchevêtré des lois physico-chimiques par lesquels Dieu règle l'activité prodigieuse du monde entier. Oui, c'est Dieu qui règle cette activité. La science n'invente donc pas ses lois. Elle ne fait que les découvrir. En définitive, elle décrit, si vous voulez, elle écrit à sa manière, un hymne à la gloire de Dieu, la science. Comment ça? En montrant la sagesse et la puissance qui préside au monde qui nous entoure. C'est Monseigneur Guica, je vous ai fait une émission le 16 janvier 1996 sur ce prélat extraordinaire, Monseigneur Guica. Il disait, dans la science, l'homme ne fait que mendier aux choses quelques secrets de leur obéissance à Dieu. C'est bien dit. Et la loi physico-chimique est aveugle. Laissée à elle-même, elle va produire son effet. Mais tout législateur peut suspendre l'application d'une loi qu'il impose. Et c'est là qu'arrivent les miracles. Et ça arrive, hein, le miracle au sens large, c'est-à-dire l'intervention de Dieu à l'encontre des lois de la nature, n'est pas nécessairement constatable toujours, hein. Il peut se faire que Dieu suspende à notre insu l'effet d'une de ses lois sans qu'on s'en rende même compte. Et je parlerai demain des miracles et vous verrez qu'il y en a et des extraordinaires. Je vous en ai souvent parlé, mais je vais y revenir car les gens n'écoutent pas toutes les émissions. Les gens disent qu'il y en a trop. Mais Dieu nous a appelés à une vie surnaturelle. C'est ce que je compte aborder dans une semaine. Et la révélation est un fait pour nous. Il nous faut donc nous attendre au miracle. Qui de nous peut affirmer qu'il n'a jamais été à son insu l'objet d'une attention spéciale de Dieu, en un mot, qui n'est pas au fond miraculé? D'ailleurs, notre existence est un miracle en soi. Nous nous demandons aujourd'hui comment trouver le bonheur. C'est que l'homme et la femme ont une mission à remplir. Donc, ils ont, tous deux, une règle à suivre, des lois à observer, et qui sont inscrites dans la nature humaine. Et c'est là le premier degré du bonheur. Rappelons, me semble, c'est très important, que ces lois ne sont pas imposées de l'extérieur, elles sont l'expression des besoins les plus fondamentaux, oui, les plus fondamentaux, les plus essentiels de notre nature. Il n'y a pas à trouver le bonheur en dehors de l'obéissance à ces lois, comme il y a des lois pour la physique, la chimie, etc. Mais à l'encontre des êtres matériels, l'homme est libre, c'est ça le problème. Et dès lors, nous avons tous le pouvoir de méconnaître ces lois. Et quand on rejette ces lois, c'est évident, on le voit dans nos propres vies, comme on le voit dans les vies des gens qui nous entourent, ça entraîne des troubles plus ou moins graves, ça entraîne des vies désaxées, et ça occasionne tôt ou tard une douleur. Une douleur, on appelle ça souvent, ces douleurs-là, un châtiment. C'est pas Dieu qui châtie. C'est le fruit d'une vie désaxée. Cette loi naturelle, elle commande à tout homme et à toute femme tout ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent se développer harmonieusement. Cette loi naturelle défend tout ce qui l'empêche, l'homme, de réaliser cette fin. Elle commande donc à l'homme un certain nombre de devoirs envers lui-même. Mais l'homme est essentiellement dépendant de Dieu. Il doit donc respecter cette dépendance, reconnaître les droits de son Créateur, lui savoir d'ailleurs gré, le remercier, lui rendre grâce à ce qu'il lui a donné. D'où un ensemble de devoirs envers Dieu. C'est un doux échange. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu m'as donné, cette intelligence, qui n'est pas peut-être très grande, mais qui est là, ses yeux avec lesquels je peux voir, mais qui faiblissent, cette âme que j'ai, Seigneur, pour te reconnaître, cette capacité que j'ai, que tu as mise en moi, d'aimer ma femme, mon mari, mes enfants, que c'est merveilleux. Je te remercie pour tout ce qui m'entoure, tout ce qui est là. Je te remercie pour être là, toi, ô Dieu. Enfin, l'homme ne vit pas seul sur terre. Les autres hommes ont la même mission puis les mêmes droits que lui. Ils ont en particulier le droit d'exiger qu'on respecte ce que Dieu leur a donné. Donc, d'où, pour chaque homme, un ensemble de devoirs de justice envers le prochain. Dans le travail, dans les lois du travail, dans les lois des échanges, du commerce, on ne vole pas les gens auxquels on vend des choses. Et par ailleurs, les dons que chacun reçoit sont prêtés par Dieu pour que nous puissions continuer le geste d'amour à l'égard des autres hommes. Il s'ensuit que tout homme qui, en plus des devoirs de charité, c'est-à-dire il a des devoirs de charité, qu'il doit collaborer avec Dieu au bonheur d'autrui dans ses devoirs de charité-là. L'ensemble de ses devoirs, ça constitue quoi? La loi naturelle. C'est la source du bonheur. Celui qui observe cette loi, celui qui accomplit ses devoirs, il observe puis il accomplit ce qu'on appelle la religion naturelle, c'est-à-dire qu'il respecte les liens qui l'unissent à tout ce qui l'entoure, et c'est là l'équilibre. Et la loi naturelle, c'est connu, hein? Elle est connue? Oui, elle est connue, mais comment? Tout simplement par la conscience intérieure. Oui, notre conscience à l'intérieur, là, c'est une lumière de l'âme qui nous fait discerner ce qui est bien, comme devant être fait, et ce qui est mal, comme devant être évité ou bien réparé. Tout homme peut, à la réflexion, découvrir par lui-même certains principes clairs et évidents qui doivent commander son activité et l'orienter vers sa fin. Par exemple, respecter Dieu, ne pas tuer, ne pas voler, et d'autres principes s'obtiendront. Par déduction, me semble. Soyons clairs. Par exemple, pour éviter de manier prudemment, disons, une arme qui risque d'entraîner la mort du prochain. Des évidences, hein? Ne pas priver l'ouvrier d'un juste salaire, est-ce que ça nous a pas été assez rappelé et rappelé? Mais ça existe encore. Que de jeunes travaillent à des salaires de famine actuellement. Que de pauvres gens assez ignorants qui n'ont pas eu la chance de s'instruire. Ils ne gagnent presque rien et travaillent des heures impossibles. C'est un vol déguisé. D'autres principes, enfin, se dégageront beaucoup plus malaisément. Et pour les trouver, bien, il faut avoir une conscience bien formée. Mais bien des gens ont la conscience malade. Hein? La conscience applique ensuite les principes de la loi naturelle, bien, au cas concret, dans leur vie courante. On sait si c'est permis ou si c'est défendu. Faut faire attention de ne pas fausser sa conscience. Car éclairée par la conscience, la volonté va prendre une décision qui va engendrer, qui va plutôt engager, je dirais, tout l'être dans tel ou tel sens, et l'homme aura obéi ou désobéi à sa conscience, et son bonheur en dépend. C'est là qu'est le bonheur. Je vous ai dit que la loi naturelle peut être connue par la simple raison humaine et livrée à elle-même, mais pour les gens de religion juive, de religion chrétienne comme les catholiques, les orthodoxes, les protestants, nous affirmons que cette loi naturelle nous a été communiquée d'une façon claire par Dieu. Sur le mont Sinaï, ce sont les commandements de Dieu. Ce sont des commandements tout à fait naturels, hein? Il ne s'agit pas d'une série de prescriptions gênantes que Dieu aurait inventées pour nous faire perdre patience. Non, c'est la copie, tout simplement, de la loi qui est déjà inscrite dans la nature de l'homme. Puis elle est destinée à épanouir notre cœur et à nous rendre heureux. Alors, comment trouver le bonheur? En étant naturel. Mais vraiment naturel, à fond, totalement. Et nous verrons mercredi comment trouver le plus grand bonheur. Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même. Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres si je ne me rencontre et ne m'aime plus? Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis et non tel que je me rêve, aide-moi à accepter ma condition d'homme limité, mais appelé à se dépasser. Apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, mes douceurs et mes colères, mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent. Donne-moi de m'accueillir comme tu m'accueilles, de m'aimer comme tu m'aimes. Et délivre-moi de la perfection que je veux me donner, mais ouvre-moi la sainteté que tu veux m'accorder. Épargne-moi les remords de Judas, rentrant en lui-même pour n'en plus sortir, épouvanté et désespéré devant son péché, accorde-moi le repentir de Pierre, rencontrant le silence de ton regard, plein de tendresse et de pitié, et si je dois pleurer, que ce ne soit pas sur moi-même, mais sur ton amour offensé. Seigneur, tu connais le désespoir qui ronge mon cœur, le dégoût de moi-même. Je le projette sans cesse sur les autres. Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux. Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison dont je sers moi-même la clé. Oh, donne-moi le courage de sortir de moi-même. Mon Dieu, apprends-moi à t'aimer.